fait de la radio. Attaque fait de la radio.
Attaque fait de la radio, c'est l'émission de radio d'Attaque Résivaudan et c'est maintenant.
Bonjour, je m'appelle Gilles. La commission formation d'Attaque propose des conférences mensuelles auxquelles il est facile de participer et même de poser des questions. Consultez notre site internet pour savoir vous connecter et participer à ces conférences avec votre ordinateur. Pour cette première conférence, qui a eu lieu mardi, Attaque a invité Pierre Calfa, l'un des auteurs du livre « L'imposture de Macron » publié par Attaque et la Fondation Copernic, pour faire l'analyse de la première année de la présidence de Macron. Le business model avancé par Macron pour faire sortir la France de la crise et en faire une start-up nation est-il réellement innovant? Les politiques néolibérales sont-elles un tant soit peu nouvelles ou, à défaut, Macron en propose-t-il une version rafraîchie? Ce sont les questions auxquelles Pierre Calfa va répondre. En tout cas, ce que prétend Emmanuel Macron, self-made président, en voulant créer une mystique salvatrice via ses réformes économiques et sociales, le livre L'imposture Macron décrypte le projet et les impasses d'une politique qui, sous couvert de modernité, applique des recettes éculées qui mettent la France en marche forcée vers la régression sociale et les inégalités. Je vous laisse écouter Pierre Calfa, ancien président de la formation Copernic et membre du conseil scientifique d'Attaque. Bonne écoute.
Bonsoir à tout le monde et merci de votre invitation. Bon, quand on a entrepris d'écrire ce bouquin, on a beaucoup hésité avant de le faire, tellement le bilan d'un an de gouvernement d'Emmanuel Macron nous paraissait évident. Et puis on s'est dit qu'on allait quand même le faire, non seulement pour essayer de récapituler les mesures qu'il avait déjà prises, mais surtout pour essayer de décrypter la logique qu'il avait derrière et d'essayer de comprendre d'abord pourquoi il était arrivé au gouvernement, pourquoi il avait gagné les élections, et donc ensuite quel était le fond de sa politique et ce qui le faisait mouvoir. On a eu raison de le faire parce que le bouquin visiblement marche bien en librairie puisqu'il en est, il a été épuisé, qu'il est réédité, donc c'est plutôt un succès de librairie, enfin un succès à notre échelle bien entendu. Bon, donc je vais essayer de traiter trois points, les raisons d'un succès, ensuite le second point, qu'est-ce que le macronisme, et enfin force et faiblesse du macronisme. Donc le premier point, les raisons d'un succès. Bon, l'élection d'Emmanuel Macron a été un séisme politique inédit. Il faut remonter au début de la Ve République pour connaître quelque chose de même ampleur, hein, avec la venue au pouvoir du général de Gaulle, une recomposition du paysage politique global qu'a eu au début de la Ve République. Bon, je ne vais pas m'étendre sur la comparaison, mais enfin c'est intéressant d'avoir ça en tête. Bon. Alors, les raisons de succès, on peut dire qu'après la présidence calamiteuse de François Hollande, tout paraissait en place pour une nouvelle alternance à droite. Bon, pourquoi une présidence calamiteuse? Parce qu'elle fut celle d'à peu près tous les reniements. Donc là aussi, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, on pourra y revenir si vous avez des questions, mais en tout cas, c'était clair que tout le monde pensait que bon bah après la présidence Hollande ça allait être la droite qui allait arriver au pouvoir et il y a une maxime enfin une phrase peut-être apocryphe de Napoléon à qui on vante les mérites d'un général et qui dit certes mais a-t-il de la chance? Bon. Et quand on regarde dans cette guerre politique que l'élection présidentielle, une élection présidentielle, Emmanuel Macron a eu beaucoup de chance. Ça, c'est le premier point qu'il faut souligner. Beaucoup de chance, pourquoi? Parce que, d'abord, François Fillon a gagné la primaire de la droite et tout portait à penser qu'il allait remporter l'élection présidentielle, mais il s'est effondré suite aux affaires qui ont été révélées. Si c'était pas François Fillon qui avait gagné l'élection de la primaire de la droite, mais Juppé, bien Emmanuel Macron aurait été quand même très embêté. Côté gauche, Benoît Hamon paraissait tout à fait bien placé après la primaire du PS, puisqu'il était donné à 18% dans les sondages. Il s'est suicidé politiquement en essayant de recoller au Parti Socialiste. Et donc, il a fini à 6%, ce qui a libéré un électorat potentiel pour d'abord Jean-Luc Mélenchon, qu'on a gagné une partie, mais beaucoup pour Emmanuel Macron. Donc, on peut dire qu'il y a eu des causes contingentes qui ont fait qu'un aventurier politique un peu sorti de nulle part a réussi à saisir sa chance. C'est certes pas tout seul, mais avec le soutien du monde de la finance et de la haute administration, mais il a quand même réussi à saisir sa chance. Sans ces causes contingentes, il n'y aurait pas eu de succès d'Emmanuel Macron. Mais ces causes contingentes n'expliquent pas tout. Parce que tout ça n'a pu se faire que parce que son apparition a correspondu à un certain air du temps. L'air du temps, c'était quoi? C'était d'abord le relatif épuisement du clivage gauche-droite, avec, on peut dire, la mort programmée, d'une certaine façon, de la social-démocratie. Pourquoi l'épuisement relatif du clivage gauche-droite? Tout simplement parce que le projet social-démocrate traditionnel, qui est un projet en fait de compromis entre le capital et le travail, qui fait que la social-démocratie traditionnelle et anti-libérale accepte le capitalisme, mais est anti-libérale au sens où ils essayent traditionnellement de borner l'activité du capital, d'empêcher le plein développement de la dynamique du capital. Ce projet a été mis à mal depuis maintenant plusieurs décennies. Le tournant en France a été ce qu'on a appelé en 83 le tournant de la rigueur, où on a vu petit à petit en France, mais dans tous les pays européens, la social-démocratie basculer au social-libéralisme et en tant que crise, en temps de crise, au néolibéralisme pur et dur. On sait que ce sont les partis sociaux-démocrates qui, en Grèce, en Espagne, au Portugal, ont appliqué les politiques néolibérales en tant que crise, qui ont été des politiques néolibérales extrêmement dures. Et de fait, la social-démocratie n'a plus de projet qui lui soit propre, et elle a adopté peu ou prou les projets politiques de la droite. Les projets économiques et politiques de la droite. Et donc, cet épuisement de la social-démocratie a eu pour conséquence un relatif épuisement du clivage gauche-droite, parce que le terme de gauche ne signifiait de fait plus grand-chose pour une grande partie de la population. Le deuxième point, ça a été le rejet correspondant des partis traditionnels. Simplement un chiffre, dans un sondage de 2014, a donné simplement 8% des Français qui faisaient confiance aux partis politiques traditionnels. Le PS étant d'ailleurs, dans ce cadre-là, le plus démonétisé. Pourquoi ça? Les partis étaient incapables de résoudre les problèmes des Français. Ça paraissait des machines électorales au service d'ambitions personnelles. Ils fonctionnaient de façon verticale. Ils reproduisaient, ils aggravaient même les inégalités. Bref, ils avaient un fonctionnement oligarchique. Et on peut dire que Macron a surfé ce désaveu en créant un mouvement qui s'appelait En Marche et qui s'est construit sur la base d'un rejet du système. Bon. Et donc, le paradoxe, c'est que Macron était un pur produit du système, puisque c'est un énarque, inspecteur des finances, banquier d'affaires, ministre d'un gouvernement, bon, ministre des finances d'un gouvernement. Mais le paradoxe, c'est que malgré le fait d'être tout ça, rassurer en partie la population, parce que pour être président de la République, il faut quand même avoir un certain nombre de compétences, et que Macron paraissait les avoir. Donc, Macron a surfé à la fois sur le relatif brouillage du clivage gauche-droite, en indiquant c'était le en même temps de droite et en même temps de gauche. Et ce en même temps était intelligent. C'était pas ni de droite ni de gauche, parce que ça voulait dire qu'on était ailleurs, mais ailleurs c'est où, hein, personne ne sait. Mais en même temps, c'est en même temps de gauche et de droite, ça veut dire que Macron était censé prendre ce qu'il avait de meilleur, hein, à droite ou à gauche. Hein, bon. Donc le clivage gauche-droite était assumé, mais pour être dans le même temps immédiatement dépassé. Et c'est ça qu'on peut dire qui a fait sa force pendant la campagne électorale. Bon, le rejet des partis derrière, c'est-à-dire on crée quelque chose qui se présente pas comme un parti, mais comme mouvement. Bon, même si en fait ce mouvement est créé sur le mode de la verticalité la plus absolue. Hein. C'est-à-dire l'horizontalité affichée se combine en fait avec une verticalité totalement assumée tant sur l'élaboration programmatique que sur la désignation des dirigeants. Et d'ailleurs la verticalité est au cœur de la conception politique de Macron, c'est-à-dire qui a poussé jusqu'à la caricature des travers de la Ve République avec une République jupitérienne. Voilà, Macron, par exemple, se vit sur le mode de la transcendance. Hein, simplement une citation qu'on a mis dans le livre, que je vais vous... Bon, c'est le JDD qui peut tranquillement écrire « Celui que ses adversaires accusent d'être un gourou ne renie pas la dimension christique du chemin qu'il suit. » Et ses prestations au meeting, bon, montrent un individu totalement exalté, proche de la transe. Bon, alors on sait que les meetings, c'est en même temps un exercice qui favorise ce type de comportement, mais quand même. Donc on a une présidence autoritaire. Bon. Qui s'assume comme telle. Et d'ailleurs, le terme assumé est le terme qui revient sans cesse. Hein, c'est-à-dire, on coupe les APL, les aides personnalité au logement de 5 euros. Bon, c'est injuste, certes, mais on assume. Voilà, hein, ça revient sans cesse côté on assume. Bon. Donc, une conception tout à fait autoritaire de la politique et qui, d'ailleurs, romp avec le comportement des présidences précédentes qui étaient certes autoritaires, mais qui, d'un certain point de vue, essayaient d'intégrer malgré tout un certain nombre d'organisations syndicales, de mouvements sociaux aux décisions prises. Hein, on associait la CFDT, on essayait d'associer FO. Bon, là, pas du tout. On prend des décisions. Et puis, comme l'a dit d'ailleurs le nouveau secrétaire de FO, Pascal Pavageau, dans une formule assez juste, Macron, c'est « je pense et vous suivez hein, ». Bon, voilà. Troisième point, c'est une gestion assez froide de la politique, c'est-à-dire appliquer les principes de la gestion managériale à l'action publique. Ça date pas d'aujourd'hui. Hein, c'est quelque chose qui date maintenant de plusieurs décennies, mais les autres gouvernements, surtout quand ils étaient de gauche, avaient malgré tout une certaine mauvaise conscience à faire ça. Là, c'est là aussi assumé avec l'emploi volontaire d'anglicisme, de termes issus du management des entreprises. Et là aussi, ce cynisme, traduit aussi en politique étrangère. Hein, c'est le retour assumé là aussi hein, de la réelle politique. Bon, ses prédécesseurs enrobaient le cynisme en politique étrangère d'un discours sur les droits humains, l'universalité des droits, etc. Là, Macron ne fait même plus semblant. Hein. Bon, là aussi, il assume sans problème. Bon, Donc, le sens de son projet, bon, c'est un projet qui vise à restructurer, à remodeler, à réorganiser en profondeur la société française. Et donc, je vais vous citer une citation qui est issue de son bouquin qui s'appelle Révolution, qui est de ce point de vue-là correspond à ce qu'il veut faire, bon, qui a dit que comme la France de 1945 et du Conseil national de la résistance, nous devons changer de logique profonde et refonder nos manières de penser, d'agir et de progresser. Donc c'est un projet de même nature hein, que celui qui a été mis en place en 1945, mais évidemment de nature radicalement différente. C'est un projet qui vise à restructurer la société française selon les canons d'un néolibéralisme autoritaire. C'est ça le fond du projet, c'est un projet global qui se décline à peu près à tous les niveaux, mais qui a une cohérence globale. Ce projet est justifié bon, par une analyse qui est une analyse d'une confondante banalité, hein, mais ce qui est la suivante, hein, la société française serait victime de rigidité qui pèse sur les entreprises et les empêche d'investir. Ces rigidités, ce sont le droit du travail, la protection sociale, et donc il s'agit, hein, par des réformes dites structurelles, de casser ces rigidités bon, pour libérer les énergies créatrices. Hein. C'est ça le fond du discours macronien. Et donc, là, il faut prendre des mesures en faveur des entreprises et des ménages les plus riches. Là, il n'y a rien de nouveau. C'est justifié, bon, avec une théorie dont vous avez entendu parler, qui est la théorie dite du ruissellement. Bon, l'idée est la suivante, c'est les ménages les plus riches, les revenus des ménages les plus riches, les cadeaux qui sont faits aux ménages les plus riches, seraient réinjectés dans l'économie par le biais de la consommation des plus riches et par le fait que les plus riches en épargnant, eh bien, leur épargne va dans l'investissement dans les entreprises, donc créer des emplois qui profitent à tout le monde. Hein. Et donc une même fiscalité sur les capitales et sur les hauts revenus permettrait en fait aux plus riches de consommer plus, donc ça crée des emplois, et aux entreprises d'investir plus, donc ça crée des emplois. Le problème, c'est que cette orientation a été mise en œuvre depuis des années. Hein. Or, si ruissellement il y a, c'est plutôt un ruissellement du bas vers le haut que du haut vers le bas. Hein. Quand on regarde hein, au niveau simplement mondial quelques chiffres, et ensuite je vous donnerai des chiffres sur la France, bon, sur les derniers quart de siècle, hein, entre 1980 et 2016, la concentration des revenus et du patrimoine a été formidable. Hein. 1% des plus riches a capté 27% de la croissance du revenu global des ménages. Hein. Et la moitié la plus pauvre n'a reçu que 12% hein, de la croissance du revenu global. Hein. Le 1% des ménages les plus riches possède 31% du patrimoine mondial aujourd'hui contre 20% en 1980. Si on regarde la France, la part des 1% des plus riches des hautes rémunérations accapare aujourd'hui 8% de la masse salariale contre 5% en l'an 2000. Et l'écart du revenu entre un PDG et un ouvrier qui était de 1 à 20 pendant la période des 30 glorieuses est aujourd'hui de 1 à 300. Donc c'est pas un ruissellement, hein. C'est un torrent en fait qui va vers les plus riches. Bon. Je ne dis rien hein, du partage hein, de la valeur ajoutée où il y a eu en fait un un partage, une baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée, puisque la valeur ajoutée, c'est la richesse créée dans les entreprises par les salariés. Parce que quand on regarde par rapport à la moyenne des Trente Glorieuses, c'est 5 points de PIB qui se sont déplacés vers les profits et vers essentiellement, comme d'ailleurs vient de le montrer un nouveau rapport d'Oxfam, mais qui confirme ce qu'on savait auparavant, vers les dividendes versés aux actionnaires et pas du tout l'investissement des entreprises. Donc cette théorie du ruissellement qui est dévalorisée par les faits a été justifiée par une vision du monde très particulière qui est ce que vous avez là aussi entendu parler, c'est la métaphore du premier de cordée. C'est l'idée que ce sont les premiers de cordée qui tirent toute la cordée, et donc il faut valoriser les premiers de cordée. Voilà exactement ce que dit Emmanuel Macron. Je crois à la cordée. Il y a des hommes et des femmes qui réussissent parce qu'ils ont des talents. Je veux qu'on les célèbre. Si on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole. Donc c'est une vision du monde très particulière parce que sont totalement oubliées les conditions sociales et culturelles de la réussite individuelle. C'est-à-dire le fait que tout ce que montre la sociologie critique depuis maintenant un demi-siècle, c'est-à-dire qu'il y a une auto-reproduction des classes dominantes, le fait que l'ascenseur social, quand il fonctionne, ne concerne qu'une infime minorité d'individus, tout cela est totalement oublié. Derrière ça, il y a l'idée d'une société sans classe sociale, sans exploitation, sans discrimination, sans oppression, et avec le fait que la société est une collection d'individus et l'objectif serait de permettre à ceux qui ont du talent de réussir. C'est-à-dire, la société est divisée entre ceux qui ont du talent et ceux qui n'ont pas de talent. Personne se pose des questions, enfin en tout cas Macron ne se pose pas la question de savoir pourquoi les gens ont du talent. Le talent serait quelque chose probablement génétique, d'inné, qui serait donné. La nouveauté dans ce discours, parce que ce discours n'est pas particulièrement nouveau, c'est un discours qui, suinte depuis des décennies. La nouveauté n'est pas tellement le contenu du discours que de la façon dont il est présenté. Pendant la campagne électorale, Macron a présenté l'image d'un néolibéralisme heureux, c'est-à-dire un néolibéralisme de la réussite individuelle. Si on prend le discours de Fillon et le discours de Macron, sur le contenu des mesures, il n'y a pas énormément de différence. Mais Fillon, c'était de la sueur et des larmes. Et peut-être que après la sueur et les larmes, il y aura un bout de ciel bleu possible. Mais voilà, c'était un discours qui était un discours culpabilisateur et qui visait à promouvoir des sacrifices. Le discours de Macron n'a pas du tout été celui-là. Ça a été un discours au contraire en disant voilà, vous allez être heureux et tout le monde peut être heureux parce que tout le monde pourrait avoir du talent et tout le monde pourra réussir. Donc ça change assez la façon dont le néolibéralisme a été compris. Au lieu d'un discours sur les sacrifices, ça a été un discours sur la réussite individuelle. Donc ce discours était d'ailleurs d'autant plus attractif qu'il était cohérent, puisque il se combinait avec un libéralisme sociétal, par exemple avec un discours qui était en rupture avec la posture réactionnaire de la droite traditionnelle que pouvait porter par exemple Fillon, qui était soutenu par la Manif pour tous, donc qui a attiré une partie des électeurs du Parti socialiste et l'électorat de la gauche moderniste. Alors force et faiblesse maintenant d'Emmanuel Macron. La force, première force, c'est les institutions. Bon, les institutions de la Ve République sont des institutions extrêmement puissantes, hein, et qui permettent de gouverner sauf crise politique majeure. Voilà. C'est-à-dire que, sauf à mai 68, sauf ce qui s'est passé pendant le CPE, bon, eh bien, où il y a une crise politique qui, à un moment donné, met le pouvoir en danger, sauf des périodes de ce type-là, les institutions de la Ve République, eh bien, permettent de gouverner assez tranquillement. Bon, ça, c'est la force principale. La deuxième force, c'est qu'il a un projet cohérent. Et donc, avec une multiplicité de réformes prises dans le même moment, qui entraîne un effet de sidération, qui sature l'espace public, hein, et donc qui a tendance à paralyser. Et pour arrêter ça, ben, la marche est haute. Hein. On voit que c'est extrêmement difficile. Hein. Et c'est d'autant plus difficile que les mouvements sociaux ont subi ces dernières années des défaites politiques et sociales non négligeables. Hein, il y a eu, on peut dire, régulièrement en France, de grands mouvements sociaux, mais ces mouvements sociaux ont freiné probablement les réformes, hein, ou plutôt les contre-réformes. Bon, l'État social a été attaqué, il n'a pas été démantelé, hein, comme dans d'autres pays, mais en fait, ces mouvements sociaux n'ont pas réussi à inverser la tendance. Et donc, pour arrêter un projet de ce type-là, un projet de cette nature-là, on voit bien que c'est extrêmement difficile, que voilà, tout le monde a conscience que les rapports de force seront très difficiles, bon, à obtenir, et donc il y a un effet paralysant de ce point de vue-là. Et surtout, face au projet Macron, il y a peine, disons, à apparaître un réel projet alternatif. Alors, un projet, c'est pas un programme. Un programme, c'est des réformes, des mesures, disons, sur tel ou tel ou tel sujet. Hein. Et là, les mesures, on n'en manque pas. Hein. Il n'y a qu'à prendre les bouquins d'attaque ou de la Fondation Copernic ou des économistes intéressés. Et dans les bibliothèques, il y a plein de bouquins qui indiquent les mesures qu'il faudrait prendre si un gouvernement progressiste arrive au pouvoir. Mais un projet, c'est pas seulement une suite de mesures, un cumul de mesures. Un projet, c'est la perspective d'une société à advenir. C'est un imaginaire social qui s'empare des individus et qui permet de porter ces mesures-là, hein, qui permet d'un certain point de vue de faire rêver. C'est un horizon pour le futur. Bon. Or, aujourd'hui, bon, c'est clair que cet horizon-là manque un peu. Hein. Par exemple, pendant des décennies, le communisme a été un projet pour des millions et des millions de gens. Bon. Les gens ne savaient pas bien ce qu'était le communisme. Bon, ce qui se passait en URSS n'était pas très, très attractif. C'était une autre société différente, plus juste, plus égalitaire, etc. Bon. Aujourd'hui, il nous manque un imaginaire social de cette nature-là. Et ça, face au néolibéralisme, c'est vrai que c'est une faiblesse pour nous importante. Alors, quelles sont les faiblesses du projet de Macron? J'en vois trois. La première, c'est que le « en même temps » de droite et de gauche, qui a été sa force, est en train de devenir sa faiblesse. Parce que en même temps de gauche et de droite et de gauche, il faut bon, on peut prendre des mesures de droite certes, mais il faut aussi prendre des mesures de gauche. Or Macron maintenant est clairement classé à droite par tous les enquêtes d'opinion, tout simplement parce que toutes les mesures qu'il a prises apparaissent clairement à droite. Et l'étiquette président des riches et même président des ultra riches lui colle maintenant à la peau. Et il y a peu de probabilité qu'il arrive à se dégager de cette étiquette-là. Donc, ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que ce qui a fait sa force commence à faire sa faiblesse. Deuxième faiblesse, c'est qu'il a une base sociale qui est une base sociale étriquée. Hein. Au premier tour de la présidentielle, Il a eu 24% des suffrages. C'est le plus faible résultat pour un président de la République de toute la Ve République. Si on prend les votes blancs et nuls, l'adhésion à Emmanuel Macron, c'est à peine 15% des inscrits. Mais surtout, c'est un vote qui est homogène. Hein, le vote pour Emmanuel Macron, c'est les catégories les plus favorisées, c'est-à-dire les cadres, les chefs d'entreprise, les professions libérales. Et tout ça, c'est aggravé encore non, aux législatives, hein, qu'on atteint avec un taux d'abstention très important. Et au second tour de la présidentielle, il y a eu un taux de vote d'abstention et de vote nul qui n'a jamais été atteint. Hein. Donc, on a une adhésion au projet de Macron qui est relativement faible. Donc, pour élargir d'ailleurs cette base sociale, maintenant, Emmanuel Macron donne sans cesse des gages à un électorat de droite qui est en déshérence. Hein. C'est-à-dire, c'est les lois de répression sur les migrants, c'est les lois sécuritaires qui, en fait, ont transposé dans le droit commun toute une série de mesures de l'état d'urgence et, en fait, ont banalisé un état d'exception en France. C'est l'annonce de sanctions contre les chômeurs, etc. Toutes choses qui ne peuvent que plaire à un électorat de droite. Est-ce que ça va marcher? On verra. Le résultat des législatives partielles montre que sont pas très bonnes pour Emmanuel Macron. En même temps, si c'est affaibli fortement dans les sondages, il s'est pas effondré dans les sondages, hein, dans les enquêtes d'opinion. Donc, on est au début du processus. Troisième, ça à mon avis, c'est l'arrogance et l'autoritarisme. C'est-à-dire que le côté jupitérien peut plaire à un moment donné, mais trop loin s'en faut. Et là, le cumul des postures autoritaires et arrogantes, le mépris de classe qui transparaît derrière, bon, ça commence à peser. Le côté monarchiste, l'ambiance de cour qui est autour de lui, tout ça, bon, commence à peser. Et je dirais que il vient de subir un premier échec, hein, sur lequel les commentateurs se sont pas beaucoup étendus, c'est le référendum Air France. Hein. Le référendum Air France était le premier test de la loi travail d'Emmanuel Macron. Alors c'est l'idée, les syndicats, on les contourne, c'est le fond de l'affaire d'Emmanuel Macron, c'est ça. Un dialogue direct entre les chefs d'entreprise et les salariés où on met de côté les syndicats et on pense qu'on peut contourner le mouvement syndical en s'adressant directement aux salariés. Ce qu'a tenté de faire le PDG d'Air France, or il a échoué. Et donc c'est un échec non seulement pour la direction d'Air France, non seulement pour le gouvernement qui a soutenu la direction d'Air France, mais plus profondément pour le projet même du gouvernement en matière de droit du travail. Et donc, ce qui s'est passé en France est très, très, très important. Hein, de ce point de vue-là, on verra les conséquences que ça aura. C'est très, très, très important. Bon, je terminerai pour conclure très vite. Bon, le 26 mai, on a tenté quelque chose avec un bilan en demi-teinte. En demi-teinte, pourquoi? Parce que, on a créé les conditions pour que ça soit une réussite avec un cadre unitaire qui est un cadre unitaire inédit dans lequel Attac et la Fondation Copernic ont joué un rôle important dans l'animation de ce collectif unitaire, dans le fait qu'il puisse voir le jour. Mais en termes de mobilisation, si on a fait mieux que les dernières fois, il faut bien le dire, ça n'a pas été un raz-de-marée. Hein, ça a été un coefficient de marée relativement moyen. Hein. Bon, voilà. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il y a beaucoup de points d'interrogation, à la fois sur la dynamique des mouvements sociaux, sur l'alternative politique à construire. Et de ce point de vue-là, on peut dire que la recomposition politique qui a commencé lors de la campagne présidentielle n'est pas finie encore aujourd'hui. Que ça soit à droite avec le FN qui ne s'est pas du tout effondré, hein, contrairement à ce que certains pensent, qui est toujours présent, qui, hein, et aussi à gauche, hein, où on voit bien que malgré la présence de France Insoumise, qui est dominante à gauche, tous les sondages d'opinion montrent que la gauche reste très très minoritaire encore aujourd'hui. Hein. Donc il y a un vrai problème, hein, qui n'est absolument pas résolu pour l'avenir.
Ma question, elle portait plutôt sur la notion d'extrême centre, que j'ai découverte récemment, et qui me semble caractériser très fortement l'action de Emmanuel Macron.
Bon, la notion d'extrême centre me semble assez foireuse, hein, je le dis comme je pense. Bon, elle renvoie à l'idée en même temps de droite et de gauche. Hein, c'est ça qu'il y a derrière. Bon, le centre étant censé être ni de droite ni de gauche, donc extrême centre en même temps de droite et de gauche. Bon, je pense que ça a peu de pertinence. Ce qui caractérise Emmanuel Macron, je pense que c'est un néolibéralisme sécuritaire et autoritaire. Voilà comment on peut le caractériser, avec un projet, que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, un projet de remodelage de la société française en profondeur, bon, et qui se traduit sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan politique. Donc c'est ça le fond de l'affaire du projet de Macron, et il a réussi, disons, à ce qui était aussi le projet de Bayrou, par exemple, ou ce qui pouvait être aussi le projet d'Alain Juppé, de réunifier les libéraux, les néolibéraux de droite et entre guillemets de gauche. D'où le fait qu'il a toute une partie du PS, du Parti Socialiste, s'est retrouvée à La République En Marche. Il y a en fait deux types de questions, une sur l'Europe, l'extrême droite, et une première question qui tourne autour des mobilisations. Bon. Les mouvements sociaux en France sont par nature imprévisibles. Personne n'avait prévu mai 68. Personne n'avait prévu juin 36. Faut être toujours prudent. Et personne n'avait prévu décembre 95 ou divers mouvements sur les retraites. Pourquoi d'abord, je l'ai essayé de le dire tout à l'heure, face au projet global d'Emmanuel Macron, bon. Il y a deux façons de l'arrêter. Il y a la première façon, c'est au niveau électoral. C'est-à-dire que, non, voilà, la France n'étant pas une dictature, il y aura une prochaine élection présidentielle en 2022. Et, voilà, il faut voter pour foutre en l'air Macron. Bon, donc ça, c'est pas le rôle d'attaque, ni de la Fondation Copernic par ailleurs. Bon. Donc c'est une première façon. C'est-à-dire de construire une alternative politique et de prendre les moyens pour qu'elle existe, ce qui n'est pas simple par ailleurs, mais c'est quelque chose de très important. Mais si on pense qu'il faut pas quand même attendre 2022, parce que d'ici 2022 il peut se passer plein de choses, il faut créer les conditions d'une crise politique. C'est-à-dire que la seule façon la seule manière de faire reculer un gouvernement, c'est à un moment donné qu'il sente que il ne peut plus continuer comme avant, il ne peut plus gouverner comme avant, et donc il est en situation de crise politique. Et comment créer une crise politique, c'est très compliqué. Hein. Ça se décrète pas. C'est en général la combinaison improbable d'éléments éparpillés qui se cristallisent à un moment donné sur un élément que personne n'avait prévu. Par exemple, on a gagné contre le CPE en 2006. C'était le gouvernement Villepin. 15 jours avant les premières manifestations sur le CPE, j'avais fait un débat à l'époque à la Bourse du Travail avec Bernard Thibault, et où on discutait justement du CPE, des mobilisations, et où tout le monde, et lui et moi, on disait que cette affaire-là était très mal engagée, que les salariés ne se mobilisaient pas, etc. Et 15 jours après, on a eu les plus fortes manifestations qu'il n'y a jamais eu en France, avec des manifestations de la jeunesse considérables, des salariés considérables, hein, que personne n'avait prévu, et qui se sont cristallisés sur ce point-là, parce que les gens ont considéré que c'était profondément injuste, probablement, cette mesure qui était prise, mortifère pour l'avenir de leurs enfants, etc. Bon, voilà. Donc, il y a, à un moment donné, des choses qui se cristallisent, et on ne sait pas pourquoi. Bon. En 95, ça s'est cristallisé sur la question de la sécurité sociale. C'est ça qui a cristallisé les mécontentements. Ensuite, ça a été les questions des retraites qui ont joué le rôle de catalyseur pendant plusieurs années. À chaque réforme des retraites, il y a eu des mouvements dans, très très importants. Le problème, c'est que ces mouvements ont perdu. Hein. Contrairement à 95, où on a à moitié gagné, et où en 2006, lors du CPE, où on a gagné. Mais donc aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle, d'une part, on ne voit pas quel est l'élément qui va cristalliser le mécontentement, parce qu'il y a un fort mécontentement dans le pays, hein, ce que montrent là aussi toutes les enquêtes d'opinion, et d'autre part, le fait que, je pense que le paradoxe est que les gens ont conscience que la politique d'Emmanuel Macron est une politique pour les plus riches, ça c'est massivement dit dans toutes les enquêtes d'opinion, mais en même temps, les gens voient bien que pour combattre cette politique, ça va être très très difficile, hein, parce qu'il y a l'intransigeance d'Emmanuel Macron, et que donc, voilà, comment faire? Et personne a la réponse, hein, il faut bien le dire. Donc, ce qu'on a essayé de faire le 26, c'est d'essayer d'enclencher un processus de mobilisation où, voilà, on aurait franchi une étape qualitative qui aurait été un encouragement à des mobilisations encore plus importantes pour engager un processus cumulatif. Bon, force est de constater qu'on n'a pas réussi, hein, même si c'était plus important que la journée était plus importante que ce qui s'est passé auparavant. Elle n'a pas été assez importante pour engager ce processus cumulatif, ça c'est sûr. Bon, voilà, donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien. Hein. Donc, il faut tenter de résister partout où on peut, bon, et puis voir, se saisir des moindres occasions, et faire de l'éducation populaire, continuer à expliquer ce que fait Emmanuel Macron, les conséquences que ça va avoir sur les gens, etc., etc. Deuxième question sur l'Europe. C'est une question décisive. La question européenne. Il y a une course de vitesse aujourd'hui qui est engagée en Europe, hein, entre l'extrême droite et nous. Le nous étant, au sens large, les forces progressistes. Hein. Bon, donc, ce qui se passe en Italie est totalement dramatique. Hein. Et ce qu'a fait l'alliance entre un mouvement carrément d'extrême droite, que la Ligue et le mouvement 5 étoiles, qui est un mouvement qui est, bon, on peut dire populiste par facilité de langage, mais qui est un mouvement qui à la fois a des revendications intéressantes, mais qui est un mouvement profondément autoritaire et sur la question des migrants profondément réactionnaire, bon, et sur le fond profondément antidémocratique. Bon, donc l'alliance entre ces deux forces-là est aujourd'hui quelque chose qui est tout à fait dramatique, et l'attitude du président de la République italienne est suicidaire, parce que après un vote des Italiens pour ces partis-là refuser de prendre acte de la victoire électorale de ce parti ne peut que les renforcer, hein. Surtout en nommant un premier ministre qui est un premier ministre honni, parce que c'est lui qui a mené toutes les politiques d'austérité quand il était, il faisait pas, quand il était haut fonctionnaire responsable des coupes budgétaires des gouvernements précédents. Bon. Donc c'est totalement irresponsable. Bon. Voilà. Mais face à ça, en Italie, il n'y a aucune autre alternative. C'est-à-dire que la gauche est en lambeaux en Italie. En lambeaux, pourquoi? Parce que alors que la gauche était assez puissante, eh bien, elle a mené pour partie une politique d'austérité, ça a été tout ce qu'a fait le gouvernement Renzi, et à un moment donné, elle a été soutenue par, entre guillemets, la gauche radicale, ça a été alors... a été soutenu par exemple par Refondation communiste à un moment donné hein, dans les années 2000 auparavant. Bon, donc il y a un gros problème hein, dans le cas de l'Italie par exemple. En France, heureusement, on n'est pas encore dans la situation italienne, mais l'Italie souvent manque le chemin. Hein. C'est les Italiens qui ont inventé le fascisme. Bon, en Europe occidentale, c'est les Italiens qui ont inventé les conseils ouvriers dans les usines. Hein, bon, dans les années 20, le maire rampant italien a été quelque chose de très important. Bon, pour toutes les luttes ouvrières en Europe. Donc, l'Italie est souvent un laboratoire dans le meilleur. Et dans le pour le meilleur et pour le pire. Donc voilà, il faut être très attentif à ce qui se passe en Italie et les prochaines élections européennes vont être très importantes parce que va s'affronter plusieurs conceptions et de l'Europe et de comment rompre avec l'Europe néolibérale actuelle. C'est pas pour faire de la pub, mais je pense que c'est important à noter. Il y a eu un texte très important qui a été signé par Podemos, le bloc de gauche au Portugal et France Insoumise, qui a un texte programmatique assez court qui à la fois indique qu'il faut rompre avec les traités européens, mais dans la perspective de construire une Europe plus solidaire, plus démocratique, qui est un texte extrêmement important. Bon, on peut espérer qu'il soit la base d'un rassemblement de toutes les forces de gauche en Europe. Bon. D'un autre côté, on voit bien que l'extrême gauche dans beaucoup de pays, l'extrême droite, pardon, dans beaucoup de pays a le vent en poupe. Hein. Et donc, ces élections européennes vont avoir un rôle politique non négligeable hein, dans le paysage politique français et européen. Ce sont les très riches qui profitent essentiellement du néolibéralisme. Bon. Mais là, il y a un ruissellement des ultra riches vers les riches quand même. Hein. Bon, là, le ruissellement, il existe quand même un petit peu. Bon, et surtout, bon, alors c'est vrai que si on prend les petites entreprises, les petits patrons, aujourd'hui, ils sont, pour la plupart des petites entreprises, ils appartiennent à une chaîne de sous-traitance bon, dans laquelle ils sont dominés par des donneurs d'ordre qui, de fait, hein, déterminent leurs conditions de production, leurs objectifs, etc. Donc, ils sont eux-mêmes très maltraités par les grandes entreprises. Mais le problème n'est pas un problème simplement économique. Hein, c'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que les riches, les ultra riches, les petits patrons, comme les grands capitalistes, eh bien, ils partagent la même idéologie, bon, qui est l'idéologie libérale classique, de on s'en sort tout seul, c'est par l'initiative individuelle, ça qui est le plus important, etc. Et donc il y a un ciment idéologique très fort. Et c'est pour ça que le discours de Macron marche par rapport à ces populations-là, parce que sinon, historiquement, le capitalisme a éliminé progressivement la petite propriété marchande. Hein. C'est un mouvement historique du capitalisme de concentration capitale. Bon, c'est un mouvement qui existe depuis la naissance du capitalisme. Bon, or la petite bourgeoisie qui a été éliminée par le mouvement même du capitalisme a été toujours la couche sociale qui a été le plus hostile au salariat historiquement. Donc le fait d'avoir des conditions objectives qui fassent que la petite entreprise ou les petits patrons se retrouvent sur la coupe des grandes entreprises, soit d'un certain point de vue exploitées par les grandes entreprises, bon, soit soumis à la pression de la valeur actionnariale, ça suffit pas à créer des intérêts communs avec les salariés, avec le reste de la population. Parce que les petits patrons, pour qu'ils survivent en tant que petits patrons, il faut qu'ils exploitent leurs salariés encore plus. Parce que eux-mêmes sont ils doivent passer sur les fourches codines, du grand capital, des grandes entreprises, dans lesquelles ils sont insérés pour créer de la valeur. Donc, je pense que, il y a à la fois une sorte de ruissellement même des riches vers les plus riches, vers les moins riches, ça c'est vrai, encore, parce que quand même, c'est vrai que les mesures prises, par exemple, si on prend l'ISF, l'ISF c'est un impôt qui touchait les riches fondamentalement plutôt que les ultra riches. La suppression de l'ISF évidemment est favorable aux ultra riches. Mais il est favorable surtout aux riches, il est favorable aux millionnaires, beaucoup plus, paradoxalement, plus qu'aux milliardaires. Les milliardaires trouvaient les moyens d'échapper à l'ISF, au moins en partie, avec des montages financiers complexes, donc qui permettaient de transférer, par exemple, d'échapper à l'ISF en transférant une partie de leur patrimoine à travers les biens professionnels. Leur patrimoine financier était transformé en biens professionnels, ce qui leur permettait d'échapper à l'ISF. Les riches, les millionnaires, ne pouvaient pas faire ça. Bon, donc eux, ils étaient taxés plein pot, avec l'ISF. Donc la suppression de l'ISF, évidemment, profite aux ultra riches, ça c'est clair, mais profite aussi aux riches, c'est-à-dire aux 10% de la population, pour aller vite, 5% de la population, et pas seulement aux 0,1% de la population. Donc il y a des intérêts communs, malgré tout, qui existent, et surtout une conception du monde qui est une conception commune, et une idéologie qui est une idéologie commune. Et il faut pas faire de l'économisme. Il faut avoir une vision qui est une vision globale, à mon avis, des choses. C'est vrai que le risque, c'est Le Pen. Mais on a la chance en France de n'être pas encore dans la situation italienne. C'est pas vrai. La situation italienne, c'est non seulement l'équivalent du PS, c'est-à-dire le PD de Renzi, qui est le même état que le PS, mais il n'y a rien à côté. C'est une disparition quasi totale de toutes les forces de la gauche radicale. Bon, c'est pas le cas quand même aujourd'hui. On n'en est pas encore là. Alors en même temps, c'est très divisé. Hamon est contesté, Mélenchon est contesté, et tout le monde, etc., etc. Donc il faut créer les conditions politiques pour que en 2022, il y ait une réelle alternative à gauche qui permette d'attirer toute une partie de l'électorat qui a voté Macron. Parce qu'il y a une partie de l'électorat, par exemple du PS, qui a voté Macron. Il y a une partie des abstentionnistes qui avaient voté, qui s'étaient mobilisés au premier tour de la présidentielle, notamment pour Mélenchon, mais qu'on n'a pas retrouvé par la suite, qui sont retournés dans l'abstention. Donc les choses sont malgré tout, de mon point de vue, encore ouvertes. Elles sont pas gagnées, elles sont encore ouvertes. Ensuite, comment faire? Moi, j'ai pas la solution, évidemment, sinon, je le dirais. Mais il faut essayer de construire les processus politiques pour y arriver. Ça suppose de la bonne volonté. Bon. C'est vrai que souvent, il n'y a pas de bonne volonté. Il faut espérer que le réalisme l'emporte.
Le 6 février dernier, 1000 personnes sont venues à Carpentras pour soutenir Nicole Briand, mais son projet a été reporté au jeudi 7 juin. Pour obtenir sa relaxe, nous devons être présents à ses côtés, nombreux et déterminés. Cette militante d'Attac est poursuivie pour avoir participé à une action symbolique de réquisition de chaises visant à dénoncer l'évasion fiscale orchestrée par la plus grande banque européenne, BNP Paribas. L'évasion fiscale crée un manque à gagner pour l'État et les services publics, faisant 67 millions de victimes en France. Et pourtant, pendant que BNP Paribas poursuit ses pratiques d'évasion fiscale à grande échelle, c'est Nicole Briand que l'État poursuit. Au programme du rassemblement du 7 juin, à 12h, rendez-vous sur la place de la mairie, place Maurice Charretier à Carpentras, pour partager un repas. Celles et ceux qui seront à Carpentras dès le matin sont invités à nous rejoindre sur la place pour préparer ce repas. 13h15, nous accompagnerons Nicole, qui est convoquée à 13h30 au tribunal. Puis nous reviendrons sur la place de la mairie, où se tiendront les animations musicales, des prises de parole et le suivi du procès. Le rassemblement prendra fin vers 17h. Carpentras est facilement accessible en transport en commun. Attention toutefois, le 7 juin, il y a grève de la SNCF. Nous vous conseillons donc de venir dès le 6 juin et nous pouvons vous héberger sur place, soit de venir avec un autre moyen de transport que le train. Cette émission est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.